Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le lundi de Pâques et nous continuons ce que nous avions promis de dire, d'expliquer hier, le jour de Pâques. Il y a plusieurs choses à voir dans ce jour de Pâques qui est si riche, si plein des miséricordes du Seigneur que nous avons dû nous arrêter à simplement l'explication du premier vers de la séquence Victime Paschali Laudes. Nous avons maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, à examiner l'oraison du jour de Pâques, parce que c'est une oraison particulière, elle est un petit peu longue, mais elle nous enseigne sur ce que nous devons demander à Dieu et en même temps ce à quoi nous devons nous attendre de la part de Dieu. Alors nous avons plusieurs choses à voir dans cette explication de l'oraison. Nous verrons donc l'explication presque mot à mot, puis nous verrons ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous devons lui demander de faire pour nous, et nous verrons que tout ceci est très cohérent. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Nous avons vu hier que le Christ est la victime pascale à laquelle les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui portent son nom, immolent des actions de grâce, des victimes d'actions de grâce, des sacrifices d'actions de grâce, c'est-à-dire ils s'immolent eux-mêmes dans le sens où, en s'offrant à Dieu, ils mettent à mort le vieil homme, cet Agag intérieur, vous vous souvenez avec l'histoire de Saül et de Samuel, cet Amalécite intérieur qu'il faut absolument tuer. Alors, nous savons que le vieil homme n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, comme si c'était un démon qui nous possédait, ou si c'était je ne sais pas moi, un couteau fiché dans notre main, nous pourrions toujours l'enlever. C'est plus complexe que ça. Le vieil homme, c'est cette tendance que nous avons, à cause de la chute, à ne pas faire le bien que nous connaissons et que nous voulons faire, et à faire le mal que nous détestons et pourtant que nous ne pouvons pas, bien souvent, que nous ne voulons pas ne pas faire. Donc, nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ est cette victime pascale, et c'est exactement dans cette perspective-là que l'Église, dans l'oraison du dimanche de Pâques, nous fait prier. Écoutez cette prière. Deus qui odiernadie per unigenitum tuum. Dieu, en ce jour où par votre Fils unique, vainqueur de la mort, vous nous avez ouvert de nouveau l'accès de l'éternité. Daignez, Seigneur, vous qui prévenez et inspirez nos voeux, venir encore les seconder et les réaliser. Ce que je vous ai lu est une traduction que j'ai dans le missel que j'ai sous les yeux. C'est une bonne traduction, bien entendu, mais elle est un petit peu paraphrastique. C'est-à-dire qu'il faut prendre les textes de la liturgie très littéralement, parce que bien souvent, malheureusement, lorsqu'ils sont traduits dans les textes des langues vernaculaires qui sont les nôtres, ils sont bien traduits, bien entendu, mais il y a une petite déperdition. Alors, c'est le rôle de l'Église aussi de connaître les langues originelles et d'essayer de vous enseigner à partir de l'intention de l'Église. Donc, tout d'abord, voyons un petit peu à qui nous nous adressons. Deus. Voilà quelque chose de très important. Nous disons Deus comme nous disions victimé. C'est la victime. C'est-à-dire que il faut prendre ce mot, cette appellation de Dieu, d'une façon absolue. C'est notre Dieu et notre Père. Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père, dira notre Seigneur un peu plus tard dans l'année. Deus qui odiernadie. Vous vous souvenez, lorsque nous nous adressons au Dieu Tout-Puissant, c'est que l'Église va nous faire confesser quelque chose relativement à notre impuissance. Lorsque nous nous adressons au Seigneur, c'est que nous nous adressons à Dieu en tant que notre maître, notre suzerain, etc. Lorsque nous nous adressons à lui en disant simplement Deus, Dieu, eh bien, nous nous adressons à lui avec la sainte audace des enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous l'appelons, si j'ose dire, par son nom le plus petit, si l'on peut dire, qui ne veut pas dire qu'il n'est pas grand, hein, mais c'est-à-dire le nom le plus bref, Dieu. Et pourtant, c'est une appellation qui veut dire beaucoup, puisque seuls les enfants de Dieu peuvent s'adresser à Dieu en lui disant, ô Dieu, Dieu. Alors, vous allez dire, on peut aussi s'adresser à Dieu lorsqu'on n'est pas chrétien. Bien entendu, c'est toujours le même Dieu, bien entendu. Mais il se trouve que ces oraisons sont données aux chrétiens. Deus, c'est Dieu en tant que notre Père, Dieu le Père. D'ailleurs, cette prière, cette oraison s'adresse à Dieu le Père. Deus, Deus, Dieu, notre Père. Nous lui demandons donc quelque chose qui a rapport, un rapport direct avec notre filiation. Deus, qui odiernadie, qui aujourd'hui. Alors, sans rentrer dans tous les détails de la liturgie, il se trouve que cet aujourd'hui, c'est justement le jour que le Seigneur a fait. Cette antienne qui retrouve, qu'on trouve dans le graduel de la messe du dimanche de Pâques, mais cette antienne qui revient spécialement pendant toute l'octave de Pâques dans la liturgie, dans le bréviaire, il se trouve que c'est Hec dies confecit Dominus. Voici le jour que le Seigneur a fait. Ce n'est pas n'importe quel jour, c'est le jour de la résurrection. C'est-à-dire que, comme disent les exégètes, c'est le huitième jour de la création. C'est-à-dire que pendant six jours, Dieu a créé le monde, il a créé le ciel et la terre et tout ce qui est contenu, l'homme inclus. Le septième jour, il s'est reposé, c'est la fin de l'œuvre du Dieu créateur. Et il se trouve que le huitième jour, qui est le premier jour de la semaine, de la nouvelle semaine, il se trouve que Dieu ressuscite son Fils. Il y a là quelque chose de tout à fait remarquable. Qui en ce jour? C'est donc non pas simplement le jour de Pâques, bien sûr c'est le jour de Pâques, le jour de Pâques d'il y a 2021 ans, c'était le jour du Seigneur. Mais il se trouve que c'est ce jour en particulier, et c'est ce jour qui est en réalité ici-bas la réfraction en quelque sorte de l'éternel présent de Dieu. Le Fils unique de Dieu ressuscité est toujours le Fils unique de Dieu, assis à la droite de Dieu, le Fils unique du Père, qui est au ciel, qui est descendu du ciel et qui est au ciel, dit notre Seigneur. Ce jour, ce n'est donc pas n'importe quel jour, c'est le jour d'après la création, c'est le jour de la recréation. Donc vous comprenez pourquoi nous nous adressons en tant que des enfants de Dieu à Dieu notre Père, parce que nous sommes bénéficiaires de ce jour. Ce jour a été le nôtre. Lorsque nous ne sommes pas encore baptisés, nous sommes encore dans la semaine de la création. Et malheureusement, comme il y a eu la chute entre-temps, nous sommes face au Dieu terrible qui vient laver son honneur et qui vient demander à l'homme les comptes de sa mauvaise gestion, de ce qu'il lui avait donné, de cet état d'innocence qu'il lui avait donné au début. Par la grâce de Dieu, par le baptême, qui est la porte des sacrements, la porte de l'Église, sans lequel on ne peut pas être, on ne peut pas être sauvé, grâce au baptême, nous entrons dans cette nouvelle création qui est le jour que le Seigneur a fait. Hec dies confecit Dominus. Et il est dit, exultemus et ledemur inea. Ce n'est pas un jour pour être triste, ce n'est pas un jour où nous... Alors vous allez dire, quand on est chrétien, donc on ne peut plus avoir la contrition, on ne peut plus être triste, on ne peut plus être... C'est pas ça que je dis, bien entendu. Il se trouve que c'est un jour où nous sommes fondamentalement heureux, parce que c'est la joie du salut. C'est la joie d'avoir franchi les portes qui nous séparaient, qui étaient autrefois fermées, et qui, nous allons y revenir, et qui nous séparaient de l'arbre de vie, de la vie éternelle. En ce jour, Dieu, qui aujourd'hui, odiernadie, qui aujourd'hui, donc dans ce jour de la recréation, dans ce jour dont nous devenons participants par le baptême, Père unigenitum tuum, par votre Fils unique. Vous savez, mes très chers frères, que nous devons terminer toutes nos prières par la référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne saurait nous écouter si nous nous adressions à lui directement sans passer par la médiation de l'unique médiateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la cause et la source de toutes les grâces. Notre Seigneur Jésus-Christ est celui par lequel nous pouvons être exaucés et écoutés par Dieu. Si nous ne nous adressons pas à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous nous adressons à Dieu par nos propres forces, c'est-à-dire par notre propre vertu, ce qui est la dernière des impiétés, tout simplement parce que comme nous sommes déchus, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons plaire à Dieu que par son Fils unique. Donc vous voyez, Deus qui implique notre Père, nous nous adressons par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui-même, par son Fils, a, nous allons le voir, réouvert les portes du ciel. Donc vous voyez, si nous nous adressons à Dieu par son Fils, par les mérites et les vertus de son Fils, il se trouve que c'est parce que lui-même a opéré notre salut par son Fils. Comprenons bien que c'est le point commun que nous pouvons avoir avec Dieu le Père, c'est l'amour de son Fils. Par amour pour son Fils, il nous a sauvés. Par amour de son Fils, nous approchons de lui avec confiance, nous approchons avec confiance du trône de la miséricorde, du trône de la grâce. Deus qui odianadie per unigenitum tuum. Vous voyez comme l'Église a construit ses horizons d'une façon très particulière. Nul ne sait qui a construit ses horizons, nous savons que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'Église depuis les temps les plus reculés, puisque ce sont des oraisons que les chrétiens ont toujours dit, en tout cas les chrétiens de rite latin ont toujours dit. Il se trouve que c'est la parole même de Dieu. Deus qui odianadie per unigenitum tuum. Ô Dieu, notre Père, qui, en ce jour, jour de la récréation, par votre Fils, Dieu n'opère pour nous du côté de sa bonté, du point de vue de sa bonté, que par notre Seigneur. Nul ne peut aller au Père que par moi, a dit notre Seigneur. Pater unigenitum tuum, par votre Fils unique. Nous ne prononçons même pas son nom. Dans un certain sens, c'est peut-être parce que nous n'en sommes pas dignes. Parce que lorsqu'on vient d'être, ça c'est un aspect de la psychologie de la foi que je dirais même du savoir-vivre chrétien, c'est que quand on vient de passer des ténèbres à la lumière, lorsqu'on était dans le royaume sous l'esclavage du démon et que nous avons été translatés dans le royaume du Fils de Dieu, eh bien d'une certaine manière, il faut avoir une attitude très humble. Et c'est pour cela que c'est très bien quand on veut absolument parler de la foi, quand on vient de se convertir, c'est très très bien sous un certain rapport. Je ne décourage pas de le faire, mais il faut le faire avec une infinie prudence, c'est-à-dire il faut le faire comme quelqu'un qui vient d'être agrégé à un état dont non seulement, auquel il n'avait non seulement pas droit, selon la justice et la rigueur, mais qu'il ne pouvait même pas imaginer puisqu'il ne le désirait pas. Puisque avant d'avoir été aimés par Dieu, nous n'aimions pas Dieu. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dignes de prononcer d'or et à travers le nom de notre Seigneur. Mais d'un autre côté, nous disons simplement votre Fils unique, parce que nous savons qu'en lui, en son Fils unique, nous sommes les fils de Dieu. Dieu qui est notre Père, nous adressons à lui par son Fils unique, parce que nous sommes les membres de ce Fils unique. Nous ne sommes pas étrangers. Nous ne sommes pas étrangers aux alliances, sans Dieu et sans espoir dans le monde. Nous sommes, par le baptême, membres du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, lorsque nous disons « votre Fils unique », c'est en tant que notre chef que nous nous référons à lui par rapport à Dieu notre Père. Dieu qui aujourd'hui, dans ce jour qui est le reflet, ce jour merveilleux de Pâques, qui est le reflet de l'éternel présent miséricordieux de Dieu, par votre Fils unique, Eternitatis nobis aditum devicta morte reserasti. Par votre Fils unique, vous nous avez reserasti, réouvert, aditum Eternitatis, vous nous avez, nobis, à nous, donc ce n'est pas pour rien, nous n'allons pas trop nous appesantir là-dessus, mais c'est à nous, ceux qu'il a aimés. Vous nous avez reserasti, réouvert, parce que les portes étaient fermées, mais vous nous avez réouvert, quoi donc? Aditum, c'est-à-dire l'accès, Eternitatis, l'accès de l'éternité, c'est-à-dire l'accès à l'éternité. En ce jour, le huitième jour de la création, qui est au-delà de la création, le jour de la résurrection de notre Seigneur, le jour de la fondation de la nouvelle création par la résurrection de notre Seigneur, la puissance de la résurrection, Dieu, par son Fils, nous a réouvert l'accès à l'éternité. Nous devons comprendre, mes très chers frères, que si, encore une fois, je le répète, je l'ai dit la dernière fois, ou une des dernières fois, si vous vous souvenez, mais si nous minimisons ce que nous avons perdu par le péché originel, Nous ne pouvons pas apprécier ce qui nous est rendu par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons perdu les dons surajoutés, lorsque nous avons perdu la droiture et l'intégrité originelle, lorsque nous avons perdu la tendance innée, spontanée à la rectitude et au bien, nous avons perdu l'accès à l'éternité. Nous n'avons pas simplement perdu quelque chose de surérogatoire dont nous n'avons pas à strictement parler besoin pour être un vrai être humain. Un vrai être humain, c'est quelqu'un qui a accès à l'éternité et qui parvient à l'éternité au jour de sa mort. Sinon, c'est un être humain diminué, c'est un monstre. Je ne dis même pas c'est une bête, parce que les bêtes sont dans l'ordre. Après tout, les bêtes, les animaux sont dans l'ordre. Les animaux ne sont pas tellement déchus. Ils ne sont pas déchus comme l'homme. L'être humain, c'est celui qui a accès à l'éternité. Or, il se trouve que, après avoir prévariqué, notre Seigneur a expulsé nos parents du paradis terrestre, du jardin d'Éden, et il a placé le chérubin à l'épée flamboyante, qui en barrait le chemin. Aujourd'hui, notre chérubin, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, flamboyant, a réouvert l'accès à l'éternité. Il nous a restitué la qualité d'homme, non pas originellement, comme nous étions hommes originellement, puisque cela ne se peut plus, on ne peut pas remonter dans le temps, d'homme nouveau. C'est pour cela, comme nous disions hier, c'est pour cela qu'il nous faut sans cesse mettre à mort le vieil homme, parce qu'il n'est plus, alors que l'homme nouveau est maintenant par le baptême. Tant que nous ne sommes pas baptisés, nous sommes identiques au vieil homme. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes dissemblables au vieil homme. Bien sûr, le vieil homme subsiste dans le sens où nous sommes marqués par le péché originel. Il y a cette malheureuse blessure due au péché originel. Mais nous sommes l'homme nouveau. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau, c'est l'homme auquel l'accès de l'éternité a été réouvert par Dieu, non pas simplement Dieu en général, mais Dieu son Père. Non pas Dieu son Père d'une façon générale, d'une façon créaturelle, Dieu son Père en Jésus-Christ. Vous nous avez en ce jour, par notre Père, par votre Fils unique, réouvert, Reserasti, aditum, l'accès éternitatis. Il y a là quelque chose de très intéressant. Aditum, c'est un, sans faire la pédanterie et dans l'étymologie, mais aditum, c'est l'accès, ça signifie l'accès, mais c'est-à-dire, c'est littéralement, c'est composé de deux mots, la racine de aditum est composé de deux mots qui signifient, en quelque sorte, le chemin vers. Ad itum, itinéré, le chemin, le cheminer vers, ad. Vous voyez, vous vous souvenez que le premier mot du premier introït de la première messe de l'année, c'est ad. Si vous regardez le premier mot, si vous ouvrez votre missel au premier dimanche de l'Avent, vous voyez le premier mot de l'année, c'est ad, c'est vers. Eh bien, maintenant, ce ad, vers, est réalisé. Nous pouvons véritablement aller vers. Nous sommes passés par le cycle de Noël où nous avons vu le Sauveur naître, alors que nous étions sous l'ancienne alliance, nous étions marqués par la loi qui nous asservissait et qui nous montrait, et qui la servitude de la loi qui nous montrait notre péché. Auquel nous ne pouvions pas échapper. Nous avons vu notre Seigneur paraître devant les hommes, devant les peuples, c'est le cycle de l'Épiphanie. Il se trouve que nous avons vu notre Seigneur être tenté pour nous, vivre comme un homme, en tant qu'homme, en tant que vrai homme, mourir, souffrir, mourir pour nous, et désormais, le chemin est ouvert, l'accès est ouvert. Nous pouvons à nouveau accéder à l'éternité. Le chérubin a été écarté, ou plutôt il s'est manifesté en tant que chérubin protecteur et séraphin bienveillant. L'épée a été écartée, le paradis céleste et nous est à nouveau ouvert. Eternitatis aditum. Nous pouvons désormais cheminer vers le ciel. Devicta morte, par la mort vaincue. Devicta morte, c'est-à-dire par par son triomphe sur la mort. C'est un peu difficile à traduire littéralement, mais votre fils unique, par son triomphe de la mort, ou ayant triomphé de la mort, mais c'est plutôt, à strictement parler, la mort ayant été vaincue, vaincue par lui. La mort, c'est la marque de la mort, l'aiguillon de la mort, qu'est-ce que c'est? C'est la concupiscence. Eh bien, cette concupiscence qui nous fait nous... Je vous rappelle, la concupiscence, ce n'est pas des choses bizarres ou étranges. La concupiscence, c'est simplement, se manifeste, c'est simplement cette tendance, elle se manifeste par le fait que nous nous préférons à Dieu, que nous préférons les choses temporelles aux choses éternelles. C'est ça le fond même de la concupiscence. Tout le reste découle de la concupiscence, les formes les plus atroces de la concupiscence ne sont jamais que des formes particulières de cette tendance à choisir le temps par rapport à l'éternité. Or, par son triomphe sur la mort, le triomphe de son Fils sur la mort, Dieu nous a miséricordieusement réouvert l'accès à l'éternité. Désormais, nous pouvons être sauvés. Alors vous allez dire, oui, c'est bien, nous, désormais nous pouvons être sauvés, bon ben voilà, c'est très bien, maintenant c'est ce qui, tout reste à faire. Oui, mes très chers frères, ne prenez pas les choses sous cet angle-là. Oui, nous allons y venir, mais bien sûr, avant nous ne pouvions pas être sauvés. Et ce qu'il y avait de terrible dans cette situation, c'est que nous ne désirions même pas être sauvés. Nous ne pouvions pas, nous le devions à strictement parler, c'est-à-dire nous devions obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est régner, en réalité, mais comme nous ne le voulions pas, et que nous ne pouvions pas, strictement parler, à cause de la chute, nous ne voulions pas être sauvés. Désormais, nous pouvons être sauvés, c'est-à-dire que nous devons le vouloir. Vous allez dire, c'est des fois difficile, parce que je me sens tenté par le monde, la chair, le diable, que ça, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas dans le huitième jour pour nous comporter comme des misérables qui sont bloqués au sixième jour. Vous voyez ? Ou même qui... Sans entrer dans les détails. Donc, il se trouve, mes très chers frères, que cet accès à l'éternité nous dicte notre devoir. Nous devons vouloir être sauvés. Et c'est là où, en quelque sorte, le poids du devoir du chrétien s'abat sur lui. Et il se sent extrêmement faible, il se sent extrêmement vulnérable, il se sent extrêmement porté à obéir aux tendances de la concupiscence, et il se dit, mais comment cela se pourrait-il ? Est-ce que nous terminons cette oraison-là en disant, Seigneur, vous nous avez aujourd'hui réouvert les portes de l'éternité, l'accès à l'éternité, nous vous remercions, etc. Non, parce que ce n'est que la première partie de l'oraison. Vota nostra, cui preveniendo aspiras, et siam adiuvando prosequere. Cette oraison est faite ainsi que, d'une certaine manière, il n'y a pas une très grande différence, un très grand contraste entre la première partie, qui est le postulat, et la dernière partie, qui est la demande. La deuxième partie est bien une demande, mais c'est une demande qui découle directement de la première. Écoutez bien, « Vota nostra, cui preveniendo aspiras, et siam adiuvando prosequere. » La traduction paraphrasique dit ceci, « Daignez, vous qui prévenez et inspirez nos voeux, venir encore les seconder et les réaliser. » Alors, la traduction est très bonne, mais ce n'est pas exactement ce qui est dit. « Vota nostra » tout d'abord, « nos voeux », ce n'est pas difficile à comprendre en français, « nos voeux ». Sans entrer dans les détails de l'anthropologie catholique, l'anthropologie chrétienne, il se trouve que vota nostra ici, ce n'est pas simplement les vœux ou les désirs, les souhaits, que les tendances que le chrétien peut avoir dans la considération du huitième jour. Vota nostra désigne ici, d'une façon très générale, ce qui reste de tendance vers le bien, de tendance vers le vrai, de tendance vers Dieu en réalité, ou en tout cas vers la divinité, dans l'homme même déchu. C'est-à-dire que l'homme a beau être déchu, il a beau être tombé sur lui-même et s'être fragmenté en une multitude de ruisselets, comme dit Bossuet, il a beau être dans la servitude du diable, être esclave du démon, être esclave de lui-même, ne pas vouloir le bien, il se trouve qu'il a quand même en lui des aspirations. Vota nostra. Ses voeux, se manifeste cette tendance, et la tendance irréfragable, c'est cette tendance inaliénable de l'homme créé à l'image de Dieu vers quelque chose de supérieur. Lorsqu'on est dans une addiction quelconque, lorsque l'on est, hanté par quelque chose, lorsque l'on désire absolument quelque chose et que c'est une chose mauvaise et que c'est une chose temporelle et que c'est une chose qui est illicite, sous un certain rapport, le fait qu'on la désire de tout notre cœur, cette chose mauvaise, accidentellement mauvaise, tient au fait que l'homme est fait pour désirer quelque chose absolument. Il y a quelque chose en nous, dit Pascal, qui a la forme de Dieu, et notre Père Saint-Augustin dit que notre cœur est constamment dans l'inquiétude tant qu'il n'a pas trouvé Dieu. Ces vœux, c'est la tendance fondamentale de l'être humain. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Est-ce que c'est donné un petit peu à l'homme déchu? Pas du tout. C'est montrer que, en réalité, tout ce qui peut s'imposer à nous, à notre désir, notre volonté, à notre amour, et qui n'est pas Dieu, est quelque chose qui usurpe la place de Dieu. Et comme nous avons tous quelque chose vers laquelle nous tendons, et que nous avons tendance à aimer par-dessus tout, ou à désirer par-dessus tout, ou à laquelle nous aspirons véritablement, nous devons comprendre que ce n'est pas tellement le fait d'aspirer ou d'aimer cette chose qui est mauvais, c'est le fait d'aimer ou d'aspirer à cette chose-là qui est une chose créée. Nous avons des aspirations. L'homme est fait pour aspirer à quelque chose qui le dépasse, à quelque chose qui semble le combler. Eh bien, ces vœux-là, mes très chers frères, qui sont dans tous les hommes, les chrétiens savent celui qui en est l'objet, et ce n'est autre que Dieu lui-même, vota nostra. Et c'est Dieu lui-même et tout ce que nous avons besoin pour aller vers Dieu, bien entendu. Donc voyez l'importance de cette expression, vota nostra, nos vœux. Nos vœux. Le verbe qui se rapporte à nos vœux, qui se rapporte à la prière que nous demandons, ou la demande que nous demandons à Dieu, c'est proséquere, c'est-à-dire réaliser. C'est-à-dire réaliser nos vœux. Faites en sorte que ces vœux se réalisent, faites en sorte que ces vœux deviennent réalité. Réaliser nos vœux, Seigneur. Réaliser nos vœux. Quels sont ces vœux? Eh bien, mes très chers frères, vous l'avez compris, ces vœux, par-delà les idoles que nous pouvons nous donner, ou par-delà les idoles qui semblent s'imposer à nous pour une raison ou pour une autre, ces vœux sont en lien avec l'aditum eternitatis, avec l'accès à l'éternité. Nous désirons accéder à l'éternité. Celui qui cherche le bonheur dans les créatures, sous un certain rapport, met en œuvre cette tendance que l'homme a naturellement vers Dieu. La seule chose, il se trompe de but. Il se trompe de but, mais cette tendance est bien là. Il n'y a pas d'homme ici-bas qui n'ait pas une tendance, cette tendance chez lequel cette tendance vers l'éternité ne se manifeste pas. Deo gratias, heureusement. Sinon, cet homme ne serait qu'une bête. Et même si, parfois on dit, certains hommes sont véritablement des bêtes, ils ne pensent qu'aux choses les plus temporelles, les plus basses, les plus viles. Eh bien, ces choses les plus basses, les plus basses, les plus viles, sont encore une idole qui se met à la place de Dieu. On ne peut pas échapper à notre nature humaine, Deo gratias, heureusement, sinon ça serait quelque chose de terrifiant, on ne peut pas échapper à notre nature humaine, même quelqu'un qui est taraudé et qui par un vice le plus infâme, ce n'est jamais qu'une idole qui prend la place de Dieu. Vota nostra, donc, nous les chrétiens, sont en lien, nos vœux sont en lien, cette aspiration profonde est en lien avec l'accès à l'éternité. Réaliser nos vœux, réaliser cette tendance profonde qui est celle que vous avez mise dans la nature humaine parce qu'elle est faite à votre image, ce n'est même pas une tendance surajoutée, là on n'est pas là dans les dons surajoutés que les gens méprisent, on est là dans la tendance foncière de la nature humaine. Nous sommes faits pour quelque chose qui nous dépasse, parce que cette chose qui nous dépasse est la seule chose qui est capable de nous combler en tant qu'être humain, et c'est Dieu, c'est l'original par rapport auquel nous avons été faits, nous, les copies. Eh bien, Vota Nostra étant en lien avec l'accès à l'éternité, nous disons à Dieu, Seigneur, vous savez que nous tendons vers l'éternité, mais il se trouve que ce ne sont que des vœux, ce ne sont que des tendances, si vous ne venez pas vous-même les réaliser. Et comment ? Vota Nostra, écoutez bien comme l'Église est précise dans ce qu'elle nous fait dire à Dieu et combien notre Dieu nous aime. Vota nostra, quae preveniendo aspiras. Nos vœux, donc là il s'agit des vœux des chrétiens, il ne s'agit pas simplement il ne s'agit plus de la tendance naturelle ou surnaturelle de l'homme, il se trouve que nous sommes ici en train de parler en tant que chrétiens parce que nous sommes les enfants de Dieu qui sommes en train de nous adresser à Dieu en ce jour de Pâques par cette oraison spéciale. Donc, nos vœux, que preveniendo aspiras, que en nous prévenant, vous inspirez. C'est-à-dire que cette tendance confuse au bonheur, cette tendance confuse à quelque chose de supérieur, Dieu, dans ceux qui sont destinés à la vie éternelle, eh bien, il vient et il les prévient, ses vœux, c'est-à-dire il ne les laisse pas simplement être le vestige de la nature, de l'image de Dieu, mais il les prévient et il les inspire. C'est-à-dire, il leur inspire de vouloir être tels qu'ils doivent être. Vous voyez, notre faiblesse est telle que si nous mettons de côté cette tendance naturelle au surnaturel, eh bien, cette tendance est informe. Cette tendance se trompe toujours de sujet, cette tendance se trompe toujours d'objet, elle erre constamment. Dieu, dans ses enfants, vient prévenir ses vœux en les inspirant. Il nous inspire ce que nous devons désirer. Etiam adiuvando. Il nous les inspire, donc, alors comment est-ce qu'il nous les inspire? Je vais dire, des fois je me sens privé d'inspiration par rapport à ses vœux. Faisons un tri. C'est-à-dire que il nous les inspire tout d'abord par la foi que l'on doit croire. C'est-à-dire que si nous sommes catholiques, nous croyons tout ce que l'Église nous enseigne. Si nous croyons tout ce que l'Église nous enseigne, c'est que nous adhérons à ce corpus doctrinal qui est objectif, qui est ce qu'il est, et auquel nous devons adhérer, sinon nous ne pouvons pas être, catholiques. Nous sommes alors hérétiques, schismatiques, nous faisons des choix, etc. D'accord ? Nous ne sommes pas catholiques. Il y a quelque chose à croire, et cette chose, cet ensemble de choses que nous devons, de dogmes que nous devons croire, doit informer notre volonté, parce que ces vœux ici sont en lien avec notre volonté profonde. Nous devons vouloir ce que l'Église nous propose comme objet de foi. Elle nous propose comme objet de foi la vie éternelle. Nous savons qu'il y a une vie éternelle. Nous savons que nous sommes faits pour la vie éternelle. Nous savons que l'accès à la vie éternelle nous a été ouvert. Nous devons donc vouloir la vie éternelle. Alors vous allez dire, je suis tellement terrestre et charnel que je n'arrive pas à vouloir. Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie éternelle? Oui. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous remettez en cause tel ou tel aspect de cette doctrine? Non. Donc, votre aspiration, votre volonté est déjà, objectivement, formée par la foi qu'il faut croire, la foi de l'Église. Vous voyez, comme l'Église nous aide, elle ne nous laisse pas à notre imagination. Maintenant, il se trouve que ce n'est pas suffisant. Bien, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons, mes très chers frères, comme nous le disions hier, développer cette vie de gratitude, cette attitude de gratitude par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Vie de gratitude qui a deux pivots. Premièrement, la connaissance de ce que nous étions, et c'est la connaissance de la corruption totale de l'être humain à cause de la chute. Et deuxièmement, deuxième pivot, si j'ose dire, la connaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Cette grâce imméritée, cet amour totalement gratuit et imprévisible du point de vue de la justice, de ce que Dieu de la rigueur, c'est un mot. Donc, nous devons avoir la pratique de la vie de reconnaissance. Pourquoi ? Pour que cette foi qui informe, qui forme de l'intérieur notre volonté, devienne vivante pour nous. Chacun pour chaque personne chrétienne. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas passer simplement de la foi que l'on doit croire à l'accès effectif à la vie éternelle si nous ne sommes pas dans la gratitude. Tout simplement parce que l'ingratitude prend toujours la place de l'absence de gratitude, et que, d'une certaine manière, l'ingratitude est très fantasque. C'est-à-dire, ou bien nous allons tomber dans l'hérésie, c'est-à-dire nous n'allons plus croire ce que l'Église veut que nous croyons, et ça, donc, ça nous fait sortir de l'Église, ça nous fait déchoir, en tout cas, secrètement ou de façon patente, enfin, ça nous fait sortir de la foi. Ou alors, d'une façon beaucoup plus subtile et plus commune, l'ingratitude nous fait minimiser le don de Dieu, la valeur du don de Dieu. Sicheres donum Dei, dit notre Seigneur à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Si nous minimisons le don de Dieu, alors nous n'allons pas tellement vouloir y accéder. Mais comme nous sommes quand même chrétiens, et là, nous revenons toujours un peu dans la même chose. Nous allons, voyez comme la psychologie du vieil homme est subtile. Nous allons vouloir faire que les autres le veuillent. Et donc, nous allons nous dresser une chaire et enseigner aux autres à vouloir le ciel. Mais pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vivre dans le désordre. Nous allons être dans une médiocrité extraordinaire. Mais extérieurement parlant, nous allons être les champions de la foi. Ce n'est pas la méthode de l'Église. Vous voyez, si nous voulons véritablement que la foi de l'Église devienne la forme même, au sens de format, de nos voeux, c'est-à-dire notre volonté, de ce que nous voulons, si nous voulons véritablement, actuellement, effectivement, accéder à l'éternité, alors il nous faut vivre dans la reconnaissance. Reconnaissance qui consiste, je le répète, à savoir ce que nous étions et ce que nous sommes sans le Christ, c'est-à-dire totalement corrompus, et savoir quel est l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il a donné son Fils unique afin que les portes du ciel puissent nous être réouvertes. Vota Nostra, vous voyez, c'est le contenu de ce que nous devons vouloir. Nous devons nous efforcer par cette vie de reconnaissance à vouloir ce que l'Église veut que nous voulions. Quae preveniendo, mais nous ne sommes pas tout seuls, puisqu'il faut demander à Dieu, et nous pouvons et nous devons demander à Dieu, que lui qui nous prévient toujours, il nous inspire précisément ce que nous devons. Mais comment nous inspirerait-il si nous ne sommes pas reconnaissants envers lui? Si nous sommes dans l'ingratitude, alors nous allons prendre Dieu de haut, nous allons le considérer comme découronné, nous allons le considérer comme ayant besoin de notre ministère pour pouvoir pour remonter sur son trône, etc. Nous allons le mépriser. En même temps, en revanche, si nous sommes éperdument reconnaissants envers ce Dieu qui nous a tant aimés alors que nous étions détestables, alors nous pouvons très humblement lui dire, Seigneur, vous qui nous prévenez toujours, inspirez nos voeux de telle sorte que nous puissions vouloir droitement. Mais c'est une chose que de vouloir droitement, et puis c'est une autre chose que de pouvoir. C'est pour cela que l'oraison n'est pas encore terminée. Il est écrit « Etiam adiuvando ». Alors là, vraiment, si l'on peut dire, c'est le bouquet, si vous me permettez d'utiliser cette expression familière, c'est vraiment la clé qui manquait pour que tout devienne réel. Etiam adiuvando. Etiam, c'est vraiment un petit mot qui revient souvent dans la langue latine. Ça signifie plus encore, en quelque sorte. Plus encore, adiuvando. Preveniendo, etiam adiuvando. Vous nous prévenez, mais plus encore, vous nous aidez. Adiuvando, donc c'est vous nous aider, en nous aidant, réaliser donc la formule, et eh bien donc nous sommes capables maintenant de comprendre que la formule de la demande est ceci. Nos voeux, c'est-à-dire notre volonté profonde, ce que nous devons vouloir, Seigneur, nos voeux, notre volonté profonde, que vous inspirez en la prévenant, encore plus et encore plus, c'est-à-dire réalisez-la encore plus en l'aidant. Nous disons souvent que cette aide que Dieu nous donne n'est pas une aide du genre un coup de pouce ou une aide comme on aide son copain à déménager, on porte les cartons, on porte les meubles, etc. C'est un coup de main qu'on donne. Non. Le Seigneur ne nous donne pas un coup de main, si j'ose dire. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie surnaturelle. Il nous donne la vie qui est sortie du tombeau, vainqueur de la mort, en ce jour que le Seigneur a fait, jour dans lequel nous devons exulter et être heureux. En lui. Il nous donne la vie, et c'est ça, adiuvando. Aidez-nous, lorsque nous disons au Seigneur, aidez-nous, c'est-à-dire rendez-nous la vie. D'ailleurs, c'était une parole qui revient souvent dans les psaumes et les prophètes. Rendez-nous la vie, Seigneur. Etiam adiuvando. Plus encore, ne nous abandonnez pas, si j'osais paraphraser, ne nous abandonnez pas une fois le bon grain semé en nous. Plus encore, etiam, plus encore. Vous voyez ce génie, si l'on peut dire, de l'Église, qui, en utilisant les mots communs de cette langue latine, eh bien, en fait des clés pour notre vie spirituelle. Etiam adiuvando. Plus encore en nous aidant. Plus encore en nous donnant la vie. Vous avez semé en nous le bon grain. Seigneur, ne permettez pas que les épines l'étouffent. Seigneur, ne permettez pas que la pierre cachée sous la terre vienne, en quelque sorte, collaborer avec un soleil terrible pour le griller. Ne permettez pas que les oiseaux sataniques viennent et le picorent, de peur que nous ne soyons sauvés. Etiam adiuvando. Plus encore, vous qui nous prévenez en inspirant nos voeux, plus encore en nous aidant. Rendez-nous la vie, Seigneur, nous sommes morts. Lorsque nous nous sentons avoir une volonté quasiment nulle face aux tendances du vieil homme, disons simplement à Dieu, Seigneur, je suis mort, rendez-moi la vie. Oui, ne disons pas, Seigneur, aidez-moi, Seigneur, donnez-moi un coup de main, j'ai juste besoin d'un petit coup de main, j'ai juste besoin d'une vitamine spirituelle, j'ai juste besoin d'un petit fortifiant, d'un petit remontant, attendez, laissez-moi mes mérites, je vais... Non, Seigneur, je suis mort, aidez-moi. Seigneur, je suis mort, rendez-moi la vie, etiam adiuvando. De telle sorte que nous adressant à notre Père, qui, en ce jour, par son Fils unique, nous a réouvert, qui a vaincu la mort, nous a réouvert la vie de l'accès à l'éternité, nous puissions, mes très chers frères, lui, nous prévenant et inspirant notre désir, nos désirs, et plus encore en nous aidant, réaliser ce que nous désirons, c'est-à-dire accéder à la vie éternelle. Voilà, mes très chers frères, ce que nous demandons, ce que l'Église nous fait demander à Dieu dans ce dimanche de Pâques. Demandons à Dieu ce dont nous avons besoin, sachant ce que nous sommes intrinsèquement, c'est-à-dire corrompus par la chute, et ce que nous sommes sans lui, c'est-à-dire totalement incapables, totalement impuissants. De telle sorte que, en nous inspirant, en nous prévenant, en inspirant notre volonté et en nous rendant la vie, notre Seigneur rende effectif cette réouverture de l'accès à l'éternité. Si Dieu nous avait réouvert l'accès à l'éternité en nous disant « Voilà, la porte est ouverte, maintenant débrouillez-vous », Dieu aurait été encore plus cruel que le Dieu juste qui damne les hommes à cause du péché originel. Il aurait été mille fois plus, un million de fois plus cruel. Pourquoi ? Parce que le Dieu juste qui damne à cause du péché originel est juste. Ce n'est que justice, ce n'est que justice. Mais le Dieu qui est à moitié bon, qui réouvre les portes de l'éternité et qui dit « maintenant débrouillez-vous », c'est un Dieu cruel, c'est un Dieu horrible. Ce n'est pas notre Dieu. Ce Dieu-là n'existe pas. Ce Dieu-là, c'est le Dieu auquel nous nous adressons en ce jour de Pâques, Deus, Dieu absolument, c'est notre Père qui nous a tant aimés en son Fils, de telle sorte que si nous croyons en lui, en son Fils, nous devenons membres de son Fils et Dieu nous prévenant comme toujours, inspirant nos vœux et nous rendant la vie, nous rend effectif l'accès à l'éternité. C'est pour cela que aujourd'hui, de tout notre cœur, mes très chers frères, nous devons demander, et pour le reste de notre vie, que Dieu ne nous abandonne jamais, que Dieu nous rende la vie et que Dieu nous donne en son Fils tout ce dont nous avons besoin pour lui plaire et pour être ses enfants, afin que nous puissions lui être unis pour l'éternité, dans cette éternité bienheureuse de la vision béatifique dans le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.